Avec Laurent Gélin à Balexer, mais c'est juste un concours de circonstances. Mais précisons quand même, votre film Lynx va sortir ici, entre autres, ainsi qu'au cinéma Scala. Donc on est là pour parler de Lynx, qui était présenté en pré-festival à Locarno cet été. Un film qui est vraiment, qui nous porte comme ça, qui nous fait découvrir une dimension qu'on ne pourrait pas soupçonner. Vous commencez d'ailleurs par des vues aériennes, au drone peut-être, et qui sont vraiment impressionnantes parce qu'on voit l'étendue du territoire que vous avez parcouru aux côtés du Lynx.
Exactement. Ouais, bah c'est un endroit où j'habite sur le canton de Neuchâtel. Et puis, j'ai vraiment, c'est pour le coup un film assez local qui n'a pas eu trop d'incidence sur le climat. On va dire que mon empreinte carbone est relativement neutre pour ce
Félicitations.
film-là, puisque c'est vraiment littéralement dans les à maximum 1 heure de route de chez moi, quoi.
Mais par contre, on voit quand même avec ce drone que vous parcourez, sans doute pour nous donner la dimension du territoire qui est immense, on ne peut pas soupçonner qu'un mâle ait autant de territoire à parcourir pour rencontrer déjà la femelle au temps des amours. Et en fait, vous parcourez comme la crête du Jura.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des vallons, des crêtes, et puis c'est des grandes étendues forestières. Et le mâle on considère qu'il peut avoir jusqu'à 120, 140 km². Donc c'est des grandes, grandes distances qu'il va parcourir. Et puis dans son territoire à lui, il peut y avoir une, deux, voire trois femelles parfois, qui ont des territoires un petit peu plus petits. Mais cependant, même si il y a trois femelles pour un territoire de mâle, c'est très très compliqué pour lui, enfin même de se rencontrer en réalité. Donc effectivement, il y a toute une période qu'on appelle la période du rut, hein, la période des amours, qui va durer environ 2 mois. Et puis pendant cette période-là, on les entend appeler pour essayer de se repérer et de se retrouver.
Quand le film s'ouvre justement sur ces vues de cette nature incroyable, vues de manière justement aérienne, vous dites, vous rappelez que le lynx a été complètement exterminé et réintroduit il y a 50 ans. Donc quelle est sa situation actuelle après 50 ans de réintroduction?
Il a été réintroduit d'abord, quelques individus ont été réintroduits dans l'Oberland bernois d'abord, et ensuite il a été réintroduit vraiment là où j'ai moi principalement filmé, c'est-à-dire sur le canton de Neuchâtel, notamment dans le Val de Travers. Et depuis, on a environ 140, 150 lynx qui parcourent toute la crête, toutes les chaînes, la chaîne du Jura. Donc ça veut dire aussi Suisse et France, hein, on est sur les deux côtés. Et par conséquent, on est dans une population qui se maintient correctement. Disons qu'elle a augmenté jusqu'à peu près en 2015, et puis là maintenant, elle se stabilise puisque les territoires sont occupés. Donc on considère numériquement que l'espèce va bien. Par contre, on réalise, moi ça fait 10 ans que je travaille avec les scientifiques, et là on réalise maintenant qu'il y a peut-être des problèmes de consanguinité, parce que justement, il n'y a pas assez de brassage génétique. Et on pourrait imaginer qu'il faudrait dans les prochaines années renouveler un petit peu la population. Ça voudrait dire peut-être que du sang neuf devrait être réintroduit dans la chaîne pour que l'espèce se porte mieux.
Alors, Laurent Gélin, vous mentionnez la consanguinité, ça implique des gènes peut-être plus faibles au niveau du système immunitaire, de la résistance?
Oui, il peut y avoir ça. Il peut y avoir. On a découvert des souffloqueurs, par exemple, pendant les captures. L'organisme qui s'occupe de ça s'appelle le CORA, et en effet, il vérifie toutes les pathologies possibles. Et on a vu aussi des malformations sur les membres. Mais essentiellement, le signe principal actuellement, c'est plutôt le souffloqueur.
Alors, vous suivez donc un mâle, peut-être plus dominant, je ne sais pas, parce qu'il va arriver à une frontière pour respecter, voir si son terrain est bien respecté par les autres. Et là, c'est un autre lynx, borgne, qui va arriver et qui va vite repartir, qui sent qu'il ne doit pas mettre ses pattes sur ce territoire.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a vraiment donc des territoires qui sont bien délimités entre les différents individus, entre les femelles et puis les mâles et les mâles. Et puis, chez les mâles, et chez les femelles d'ailleurs, chez tous les individus, en fait, il y a une communication invisible qu'on appelle la communication olfactive. Ça veut dire que pour pouvoir marquer son territoire, ils vont uriner un petit peu partout sur les bornes de marquage. On appelle ça des bornes de marquage. Et quand il n'y a pas d'hostilité, en fait, le premier va uriner sur un côté de la borne, et puis l'autre va uriner de l'autre côté de la borne. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, parfois, il y a des jeunes mâles qui sont prétendants et qui, eux, cherchent un vrai territoire et qui, eux, vont volontairement uriner sur la marque du résident. Et là, dans ces
Provocation.
cas-là, il y a une provocation et puis il y a vraiment intrusion dans le territoire, quoi. Donc il y a souvent confrontation, lutte. Et l'un des deux, l'un des plus faibles va forcément disparaître, soit mourir, soit partir du territoire.
Et à propos de marquage, on voit à un moment donné, parce que vous nous suivez une femelle qui sera gestante et après qui va donner naissance à 3 petits chatons, je crois que vous dites chatons.
Oui, on dit chatons. C'est des félins, oui.
Et donc 2 mâles qui sont un peu plus, enfin ils jouent ensemble, peut-être un peu plus immatures que la femelle qui part à la découverte. Voilà. Et la femelle marque aussi, peut-être pour ses petits, pour les défendre, elle frotte les joues.
Alors toute l'année, hein, de toute façon, toute l'année, tous les individus, que ce soit les mâles ou les femelles, toute l'année, ils vont marquer leur propre territoire. Hein. Donc la femelle, même si elle est avec ses petits, elle va continuer à marquer son propre territoire en disant, voilà, ici c'est moi, je ne supporterai pas d'autres femelles sur mon propre territoire, parce que c'est tout simplement un garde-manger. Donc elle a une quantité de nourriture avec les chevreuils et les chamois. Et si évidemment il y avait trop de lynx sur le même secteur, bah, là, évidemment, il y aurait... Trop de prédateurs sur les proies. Donc c'est pour ça d'ailleurs que souvent il y a certains chasseurs qui se méprennent, hein, qui disent que en effet il y a trop de lynx, mais en fait il peut pas y avoir trop de lynx puisque en effet eux-mêmes vont s'auto-réguler en quelque sorte et donc pousser les autres lynx à quitter les territoires lorsque il y a trop de pression sur le gibier.
Ben, puisque vous en venez aux chasseurs, c'était une de mes questions. Vous avez pu avoir des conversations, disons équitables, riches, sincères avec des chasseurs? Souvent, ils ont des arguments banco.
Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que j'ai vraiment découvert... Enfin, j'ai rencontré, oui, plein de chasseurs sur le terrain, souvent pendant la période de chasse, d'ailleurs, parce que c'est vrai que je rencontre moins de chasseurs quand c'est pas la période de chasse. Ils sont pas forcément sur le terrain. Pendant la période de chasse, oui, je peux en rencontrer. J'ai vraiment vu de tous les profils, en fait. J'ai vraiment vu des gens qui étaient ultra respectueux et je voyais tout de suite que c'était des gens qui étaient à l'écoute, qui même, à la limite, parfois même, mettaient des pièges photos pour pouvoir savoir s'il y avait les lynx et puis les envoyer éventuellement même, envoyer des informations éventuellement même au CORA. Et puis, il y a vraiment l'opposé, c'est-à-dire celui qui ne veut absolument pas entendre parler des grands prédateurs, qui est absolument convaincu que tous les lynx mangent tous les chevreuils et tous les chamois, et que depuis que le lynx est là, il n'y a plus de chevreuils, il n'y a plus de chamois. Alors moi, j'ai tendance à leur rappeler qu'il faut juste regarder les chiffres, en fait, les chiffres du début des années 70, et puis maintenant, début 2015 à 2021, et on se rend compte que les tableaux de chasse n'ont cessé d'augmenter. C'est-à-dire qu'on tire plus de chevreuils, on tire plus de chamois. Maintenant, on tire du sanglier, du cerf, qui n'était pas présent auparavant, avant même que le lynx n'arrive. Donc ça veut dire qu'on a eu, depuis le retour du lynx, en fait, une recrudescence de quasiment tous les herbivores et toutes les proies potentielles pour les chasseurs. Donc c'est vraiment un argument qui est faux. Et encore une fois, c'est pas forcément la majorité des chasseurs qui pensent comme ça, mais c'est vrai que malheureusement, il y a encore des chasseurs qui sont absolument indétrônables, ils ne veulent pas penser qu'une nature doit être avec des grands prédateurs.
Et d'ailleurs, on sait que le lobby de la chasse est beaucoup plus puissant en France qu'en Suisse et qui bénéficie de pas mal d'appui, donc ouais. C'est un problème. À propos des prédateurs, à un moment donné, on voit passer un loup et contrairement aux idées reçues, le lynx ne va pas prétériter les troupeaux des éleveurs, contrairement au loup qui est peut-être plus menaçant.
Alors dans le film, il n'y a pas de loup. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de loup. J'aurais bien voulu, d'ailleurs. mais...
C'est à force de voir des
d'autres images. Oui, c'est ça. D'autres images de...
Alors, vous avez des rivaux.
Ouais, il n'y a pas de loup. Et effectivement, maintenant, bah, notamment dans le marché rue où il y a une meute qui s'est installée, on peut s'imaginer qu'il va y avoir obligatoirement une cohabitation entre les loups et les lynx, mais c'est déjà le cas dans plein de pays. En réalité, hein, il y a la Pologne, il y a la Biélorussie, enfin, il y a la Russie, il y a plein de pays, la Roumanie. Ouais. Et par conséquent, le lynx va sûrement s'adapter lui aussi à son comportement pour éviter de se faire embêter par une meute de loups. Alors un lynx face à un loup, ça craint pas grand-chose. Mais effectivement, 2, 3, 4, 5 loups, alors là par contre, le lynx a plutôt tendance à réapprendre à monter dans les arbres chez nous.
Ah bon. Et j'imagine que c'est un travail de longue haleine qui vous a pris plusieurs années. Ouais. Et vous montrez aussi des espèces qui sont menacées. On voit des faucons pèlerins, on voit bien beaucoup d'oiseaux dans des tétras, on voit des renards. Et on sait que certaines espèces sont quand même à la limite de la survie.
Ouais, on voit effectivement le grand tétra qui, moi, quand je suis arrivé en Suisse il y a 15 ans, il y avait encore du grand tétra sur certains secteurs. Hein. Moi, je suis arrivé à Lignières, donc c'était au pied du Chasseral. Il y avait encore quelques grands tétras à l'époque. Sur le canton de Neuchâtel, il y avait encore quelques tétras, alors qu'il n'y en a visiblement plus. Et puis ben, voilà, sur le canton de Vaud, il y en a encore un petit peu, mais c'est vrai que par contre, on est dans une société où les gens ont envie d'aller en nature. Et il y a certains secteurs qui devraient être complètement préservés, en fait. On ne devrait plus avoir le droit d'y aller, hein, que ce soit des photographes, que ce soit des chasseurs, que ce soit voilà, des promeneurs. Et ça, ce serait intéressant d'avoir justement des secteurs complètement préservés, et puis éviter d'avoir des dérangements sur des espèces sensibles. Ouais.
Et à propos de cohabitation et de préservation, on voit à un moment donné des forestiers, des bûcherons, et vous parlez d'un concept que je ne connaissais pas, je dois avouer, la forêt jardinée.
Oui, exactement. La forêt jardinée, ben, c'est Henri Biollet, je crois, au 19e siècle, ou 18e, 19e siècle, je crois, qui a élaboré ce principe de gestion de la forêt. Je trouve que c'est une gestion assez intelligente parce qu'il va laisser différentes essences d'arbres évoluer les unes avec les autres et avec des âges différents également. Donc en fait, plutôt que de tout raser pour faire une coupe rase quand on a besoin de bois, eh ben, ils vont faire ce qu'on appelle le martelage. C'est-à-dire que arbre par arbre, ils vont dire ben, voilà, celui-là, on peut le couper, celui-là, on ne va pas le couper. Et donc il y a toujours un brassage de différentes essences d'arbres dans la même forêt, avec des tout petits, avec des plus gros, avec des très gros, et même parfois même des arbres morts qu'on va laisser sur pied, et on va les laisser pourrir, tout simplement pour favoriser la biodiversité. Donc c'est vrai que c'est un concept qui est plus du tout, c'est pas du tout actuellement le concept principal de ce qui se fait dans les forêts, parce qu'on fait plutôt maintenant de la monoculture, et puis on fait des coupes rases, hein, c'est faut que ce soit très très rentable, avec des essences d'arbres qui repoussent vite, enfin voilà. Mais évidemment, là par contre, c'est des déserts biologiques, hein, c'est-à-dire qu'une forêt plantée, c'est un désert biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien. Bah, il y a pas d'insectes, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de mammifères ou très peu. Enfin, voilà. Donc, alors qu'évidemment, sur ce principe de forêt jardinée, qui est un principe qui avait été élaboré donc, dans le Val de Travers, c'est un système qui favorise énormément la biodiversité. Donc c'est pour ça que dans mon film, on voit de la bécasse, on voit de la gélinotte, on voit plein d'autres bestioles qui ne sont pas forcément très, très présentes dans les autres forêts.
Et puis d'ailleurs, on traverse les saisons. On a évidemment la couche neigeuse en hiver, on a l'apparition de la floraison au printemps, des insectes. Ça vous a pris combien de temps beaucoup de patience pour faire tout ce travail?
Ben, en fait, je travaille sur le lynx depuis à peu près 10 ans, un petit peu plus de 10 ans. Et j'ai fait d'abord deux livres en photo. Hein. J'étais photographe à
chez Slatkin.
Chez Slatkin, notamment, ouais. Et,
regard croisé, entre autres.
C'est ça, ouais. Lynx, regard croisé. Et puis, en fait, après, lorsque j'ai fini ce projet qui a duré presque 5 ans, je trouvais un peu dommage d'arrêter sur cette espèce-là qui était très peu photographié et quasiment jamais filmé, en fait. Et comme mon métier évolue, et puis que y avait plein de gens qui me disaient mais faudrait que tu nous fais, est-ce que tu peux nous faire quelques vidéos, etc. J'ai vu que mon métier évoluait vers l'image vidéo. J'ai parié que j'allais pouvoir faire éventuellement au début, c'est parti sur un 52 minutes, donc c'était un documentaire. J'avais déjà une production en France pour Arte. Et puis finalement, il y a JMH et Philo Pro-Production qui m'a approché, Florence Adam, qui a voulu voir mes images, elle a vu mes images, elle m'a dit « mais ça, c'est pas pour la télé, en fait, ça, ce serait pour le cinéma, quoi ». Et d'ailleurs, j'ai eu l'outrecuidance de lui dire non au début, je l'ai refusé en lui disant « non, mais ça va pas intéresser les gens, le lynx, tout ça, c'est que sur une espèce, c'est trop pointu ». Et puis finalement, en mettant toutes mes images bout à bout, j'ai réalisé que finalement, j'avais une petite histoire qui pouvait commencer à se dessiner et avec une monteuse, avec toute une équipe derrière moi qui sont habitués à travailler au cinéma, on a réussi à faire une vraie histoire cinématographique.
Et à propos d'histoire, on voit que le lynx reste quand même une espèce menacée, puisqu'on a parlé des chasseurs qui sont certains conciliants et ouverts et d'autres un peu moins, mais il y a les braconniers toujours. On voit qu'un des jeunes mâles de la première portée, vous avez d'ailleurs cette vue aérienne et on voit sa silhouette sur la neige, c'est poignant. Il a été tué par un braconnier qui a laissé sa dépouille sur place.
Oui, alors le principe des braconniers, c'est évidemment de surtout pas ramasser l'animal parce que...
Même pas la peau.
Surtout pas la peau et il paye rien du tout parce que forcément, s'il se fait attraper, s'il y a des preuves que c'est lui qui l'a tiré, il va forcément se retrouver avec quelques ennuis. Donc les chasseurs, effectivement, parce que je dis braconniers, enfin je dis chasseurs en même temps parce que forcément, les braconniers, c'est des gens qui ont un fusil et qui sont souvent... D'ailleurs, le braconnage... souvent arrive pendant la période de chasse. Donc malheureusement, c'est très probablement des chasseurs qui, eux, sont très contre la présence du prédateur. Eux, quand ils tirent sur l'animal, ils ne vont même pas s'approcher de l'animal. Hein. Ils tirent et ensuite ils partent vite, parce que sinon, il y a un coup de feu qui vient d'être entendu, il y a un garde-faune qui risque d'arriver, ou même quelqu'un d'autre. Et puis s'ils voient le lynx mort, eh bien, forcément, ils risquent de se faire attraper. Quoi. Tirer un lynx pour un braconnier, un jeune ou un adulte, parce qu'ils peuvent tirer sur n'importe quoi, c'est vraiment histoire de dire, ben voilà, moi, je ne veux pas de prédateurs chez moi, parce que c'est mes chevreuils, c'est mes chamois, et je ne veux pas de concurrence, en fait. Alors que ce qu'il ne faut surtout pas oublier en Suisse, hein, c'est que les lynx ont été réintroduits non pas par des écolos, ça a été réintroduit par des ingénieurs forestiers et des gardes forestiers, qui justement en avaient marre d'avoir des tout petits arbres qui se faisaient manger par les chamois et les chevreuils. Et ils ont trouvé une solution qui est tout simplement naturelle et simple, c'est de remettre un prédateur. Et puis ce prédateur-là a éclaté les hardes. Donc il n'a pas décimé les hardes, mais il les a éclatées. Alors c'est vrai que certains chasseurs se disent, il n'y a plus les chevreuils que je voyais tout le temps dans cette prairie-là, ils ne sont plus là, donc c'est le lynx qui les a tués. Non, en fait, ils se sont déplacés. Et c'est vrai que ça harmonise un petit peu mieux ce qu'on appelle l'abroutissement. L'abroutissement, c'est les herbivores qui mangent les petites feuilles et les petites pousses, et qui donc ralentissent la croissance des arbres. Et bien là, en fait, comme c'est mieux réparti sur la forêt se porte mieux. Et le lynx, vraiment, a un vrai rôle écologique à ce niveau-là.
Alors, vous parlez d'harmonisation grâce justement au retour du lynx. Et on peut aussi mentionner qu'il n'y a pas malheureusement que les braconniers comme danger pour les lynx, mais également la route.
Bah, le gros problème là où vit le lynx, notamment dans le Jura, hein, c'est ce qu'on appelle le morcelage des territoires. C'est-à-dire que à peu près à tous les 5 km, il y a une route quelque part. Quoi. Enfin, on a peu de gros massifs forestiers sans être coupés par la route. Et comme maintenant la population est relativement stable sur toute la chaîne du Jura, ben les jeunes, à un moment donné, doivent quitter la mer et doivent chercher leur propre territoire. Alors quand il y a encore beaucoup de territoires vacants, le jeune va pouvoir trouver un territoire assez facilement et ne va pas avoir besoin de bouger beaucoup. Malheureusement, actuellement, on va se retrouver avec beaucoup de territoires occupés. Et par conséquent, les jeunes doivent beaucoup bouger, donc beaucoup traverser les routes. Et malheureusement, donc, dans ce cas-là, ont de plus en plus de malchance de tomber sur une voiture et de se faire écraser par une voiture. Donc c'est vrai qu'on va probablement, les prochaines années, avoir de plus en plus d'accidents avec les jeunes lynx, parce que justement, ils ont quasiment plus d'endroits où aller. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est qu'il y ait des corridors, qu'on appelle les corridors, entre les grands massifs forestiers. Donc ça aurait pu être les Vosges, par exemple, les Vosges du Sud, ou bien la forêt noire en Allemagne, ou éventuellement le nord des Alpes.
Le Tyrol,
ça fait... Oui, alors il faudrait vraiment des corridors boisés, en fait, de façon à ce que les animaux puissent s'étendre et n'aient pas besoin de franchir des énormes étendues. Le lynx, en plus, a du mal à faire ça. Hein. En règle générale, quand il voit qu'il y a des grandes étendues comme ça qui sont ouvertes, il ne va pas traverser, ou alors il va revenir, à un moment donné, il va revenir en arrière. Quoi.
Donc ça serait une problématique pour les prochaines années. Pour revenir à votre film, il était à Locarno, comme je disais, en pré-festival. Comment avez-vous vécu ce festival et cette projection ?
Oh bah c'était assez magique, hein, parce que forcément, être sur la Piazza Grande, comme ça, avec plusieurs centaines, voire milliers de personnes, je ne sais plus, il devait y avoir 2000 personnes, un truc comme ça. Et puis c'est surtout l'accueil, en fait, j'étais mal, alors je ne m'attendais vraiment pas à ça, c'est-à-dire que les gens, à la fin, les 15 dernières minutes, il s'est mis à pleuvoir, et les gens sont restés, ils se sont cachés sous les arcades, mais ils ont continué à regarder le film. Et à la fin, il y a eu une vraie ovation. Alors là, moi, je ne m'attendais pas à ça. Et j'avoue que j'ai été un peu ému. Et puis en plus, deuxième couche là-dessus, c'est que mon fils, quand il y a eu cette ovation-là, lui-même, je pense, a été très ému et fier. Il s'est collé à moi, il s'est mis à pleurer. Donc on était très émus tous les deux.
Et pour revenir justement aux jeunes générations, Monseigneur, votre fils, vous espérez qu'avec ce film, justement, puisqu'il sort sur les écrans la fin octobre ici en Suisse romande, en France, je crois que c'est début janvier,
19 janvier,
est-ce que vous pensez que les jeunes générations vont justement mesurer l'importance de préserver toutes ces espèces, entre autres le lynx, mais aussi les autres, qu'on voit dans votre film ?
Ouais, alors c'est un peu le principe de mon métier, c'est-à-dire de montrer des choses qui sont assez belles et puis de dire aux gens que voilà, il faut préserver toute cette beauté. Après, malheureusement, il peut y avoir des messages confus, c'est-à-dire que je sais que quand j'ai sorti mon tout premier bouquin, En fait, j'ai presque eu plus de jeunes photographes qui voulaient photographier le lynx plutôt que de le conserver, en réalité. Donc l'optique avait sensiblement changé, ce qui est un peu dommage parce que c'est vrai que mon but à moi, c'est que bon, les gens, s'ils peuvent voir le lynx, c'est génial, hein, c'est pas, eh bien, ça ne m'est pas réservé. Mais c'est aussi de penser que voilà, il y a des problématiques sur lesquelles on peut avoir des leviers d'action. Donc voilà, par exemple, s'abonner à une association, enfin, agir pour l'environnement, c'est pas juste faire de l'image ou chercher le lynx. C'est-à-dire que c'est aussi, voilà, en tous les cas, suite à mon film, il y a une députée verte qui m'a contacté, qui souhaiterait qu'on se rencontre pour pouvoir justement parler des différentes problématiques du lynx. Donc moi, c'est vrai que mon but là-dedans, c'est d'essayer d'améliorer la conservation de l'animal, quoi.
Alors, je sais que vous avez une avant-première, donc vous devez bientôt nous quitter, Laurent Gérin. Rapidement, quelques mots sur votre parcours, parce qu'il est multifacette. C'est d'abord les beaux-arts, il me semble, et puis aussi la photographie, avant d'arriver à vous spécialiser en photographe animalier.
Alors, en fait, non. J'ai commencé d'abord, tout gamin, à être vraiment passionné par la nature. Donc, c'était vraiment ça qui m'a toujours passionné. Et donc depuis tout gamin, je dessinais tout le temps des bestioles, enfin tout le temps des animaux. Je voulais tout le temps être dans la nature. Et puis après, bah, comme je dessinais beaucoup, j'ai fait effectivement une école d'histoire de l'art. Bon, après, l'histoire fait que je me suis fait virer parce que j'étais bon que dans le dessin et je n'aimais pas trop le reste. Et puis parce que j'étais passionné, j'ai commencé à faire de la photo. Je suis devenu photographe animalier. Et puis après, mon parcours a fait que j'ai bougé à Londres, j'ai travaillé avec la BBC, j'ai vécu en Namibie.
Comme guide,
exactement. Et puis comme guide naturaliste, ça veut dire que j'avais quand même... Enfin, quand on est naturaliste et observateur, je pense que ça peut servir un peu partout dans les différents lieux du globe. Donc ça m'a pas mal servi. Et puis après, je faisais beaucoup, beaucoup de reportages à l'étranger. Et puis quand je suis arrivé en Suisse, bah c'est vrai que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de au moins pouvoir un jour observer le lynx. J'avais photographié le tigre, le jaguar, le léopard et le lion et consorts. Et puis j'étais un petit peu fatigué aussi peut-être de voyager. Je trouvais aussi que c'était un petit peu déplacé de faire la morale à tout le monde en disant « faut préserver l'environnement, puis moi je prends les avions tous les 3 mois ». Donc voilà, j'ai trouvé un peu un équilibre où m'installer ici, travailler sur le long terme, sur une espèce difficile. Et puis au bout de 10 ans, bah, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose d'assez chouette, quoi.
Tout à fait, c'est vraiment un film qui impressionne parce qu'on atteint l'intimité de cet animal qui est plutôt discret, difficile à observer, grâce à votre caméra, grâce à votre regard. Et puis surtout, ces vues aériennes qui permettent aussi justement de découvrir tout son territoire. C'est très impressionnant. Merci beaucoup, Laurent Gérin. Quelques mots peut-être sur vos projets. Vous accompagnez ce film qui sort là actuellement en Suisse, oui, puis en France. Et vous avez déjà envie d'aller...
Oui, alors là, je meurs d'envie de repartir sur le terrain parce que forcément, là, ça fait presque un an que je suis sur le travail de ce film. Alors bon, j'aime bien les humains, hein, c'est pas la question, mais c'est vrai qu'il y a des fois où ça me manque quand même terriblement d'être tout seul en pleine forêt. Il y a un 52 minutes qui va sortir avec la Salamande, il y a un bouquin qui sort qui accompagne le film. Donc voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de travail ces derniers mois. Je vais accompagner le film jusqu'au 19 janvier en France. Et puis après, il est fort probable que je me replonge. J'ai déjà 2-3 idées, mais comme je n'ai pas d'image, je préfère pas en parler.
Merci Laurent Gérin.
Merci.
Bonne avant-première ce soir.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir accordé du temps.
Merci.